Bonsoir et bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir à l'épisode 2 de l'hommage que nous vous proposons cette saison à William Klein. William Klein, ce cinéaste américain qui est décédé en septembre dernier à l'âge de 96 ans et qui est un photographe de départ, un cartooniste, un dessinateur également, et qui s'est mis au cinéma précisément en 1964 en filmant un boxeur qui était déjà un boxeur très en vue aux États-Unis. Et le film que l'on va regarder ce soir est un film un petit peu curieux qui est l'assemblage de deux films. La première partie en noir et blanc qu'on va regarder, elle est en fait sortie en festival sous le nom de Cassius le Grand. Elle a même été récompensée en France à sa sortie au festival de Tours, si je me rappelle bien, un festival de court-métrage. Et la deuxième partie, celle qui est en couleur, qui est filmée 10 ans après, est un autre film, mais les deux, vous allez voir, sont absolument indissociables pour dessiner une trajectoire. C'est ça qui... Bon, il y a beaucoup de choses qui, je pense, fascinent, et on comprend très bien en regardant le film, ce qui fascine dans la personnalité de Cassius Clay, qui entre les deux, 10 ans plus tard, est devenu Mohamed Ali, mais je veux pas anticiper sur la présentation qui va vous être faite. Mais je voulais insister sur ce fait que voilà, c'est un film qui a une construction un petit peu curieuse et qui montre, qui est le fruit d'un processus en fait, et aussi d'une relation très particulière qu'a tissé un cinéaste avec son sujet. C'est un cas d'ailleurs unique dans la trajectoire de William Klein. Cet hommage, il est placé sous le signe de la rue, précisément parce que William Klein s'est révélé comme photographe de rue et qu'il a envisagé le cinéma dans le prolongement de cette pratique photographique. Il disait que précisément la caméra lui permettait beaucoup plus d'interaction avec les gens qu'il pouvait rencontrer, et c'est quelqu'un qui aimait vraiment se frotter à la rue, au hasard, au public, au corps. Et ce qui marque tous ces films de rue à William Klein, c'est précisément, vous allez y être sans doute très sensible, la distance très proche avec tous les gens qu'il rencontre et qu'il filme. Ça, c'est aussi une spécificité qui est due à son mode opératoire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui filme lui-même, caméra à l'épaule. William Klein était très grand, il avait la carrure pour supporter une caméra assez lourde à l'épaule, et il se contente pas seulement de filmer, c'est lui aussi qui monte, qui enregistre. C'est un petit peu un homme orchestre en fait, donc c'est vraiment un cinéma d'auteur au sens le plus littéral du terme. Alors pour cette séance, j'avais envie qu'on ait un petit peu un éclairage finalement, parce que ça va sans doute être dit dans quelques secondes, on connaît la légende mais on connaît très peu le boxeur et aussi l'homme, j'allais dire. Donc j'ai l'impression que mon invité, que je vous demande d'accueillir, Judith Pérignon. Donc est assez bien placée, puisque j'ai l'impression qu'elle a une connaissance intime presque du boxeur, puisque pour France Culture elle a réalisé une longue traversée qui a d'abord pour la radio, et cette traversée elle s'est muée en un essai, je ne sais pas si c'est une biographie, qui a été publiée l'année suivante en 2019 aux éditions Grasset. Ouais. Donc merci beaucoup Judith, d'être parmi nous.
Merci à vous d'avoir pensé à moi.
Non, mais avec plaisir. Et je crois, peut-être, je ne sais pas s'il faut commencer par là, que vous avez croisé le cinéaste dont je viens de parler à l'instant.
Voilà, justement, je vais vous raconter un peu ça. Ouais, merci d'avoir pensé à moi. En plus, la boxe, c'est quand même un monde d'hommes. Vous allez voir un film d'hommes. Et j'ai senti, quand je me suis attaquée au sujet il y a quelques années, qu'on me regardait bizarrement en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle y connaît ?» Qu'est-ce qu'elle y connaît ? J'y connaissais pas tant que ça, mais c'est vrai que j'ai passé 6-7 mois dans les archives et je suis partie aux États-Unis sur les traces d'Ali. Et effectivement, j'ai eu la chance d'interviewer William Klein. C'était alors en 2018, et c'était déjà un vieux monsieur, très ralenti. Mais alors, quand il parlait d'Ali, il s'animait complètement. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, ce que je ressens quand je parle d'Ali, je ris intérieurement d'avoir fréquenté, même pas autant que lui, mais parce qu'Ali c'est quelqu'un de très électrique, c'est une période très électrique. Et William Klein m'avait dit, je l'ai noté pour vous, là, Quand je l'ai approché, il se préparait pour son combat, moi je filmais. Il trouvait ça un bel hommage, mais il trouvait surtout ça tout à fait normal. Je ne l'ai jamais vu douter, j'ai toujours été épatée par sa confiance. Je trouvais risqué sa façon d'insulter ses adversaires, de les traîner dans la boue. Dans la boxe, ça n'existait pas d'insulter son adversaire. Le type en face pouvait être terriblement vexé, mais lui s'en foutait. La chose qui m'attirait le plus chez lui, c'est cette indépendance, le refus de l'autorité politique, militaire. Ce qu'il faisait, c'était du jamais vu. Et le film s'ouvre effectivement avec ce mois de février 1964, on est à Miami. Le titre de champion du monde poids lourd va se jouer. Et en même temps, personne ne pense que le titre est en jeu, puisque ce jeune Cassius Clay va affronter Sonny Liston, un type imbattable, imbattu. Et Cassius Clay, qui ne s'appelle pas encore Mohamed Ali, il a été médaille d'or des semi-lourds aux Jeux Olympiques de Rome pour les États-Unis. Depuis, il fait des combats qu'il gagne parfois, mais pas contre des types imprenables. Donc personne ne croit à la victoire de Cassius Clay. Même le New York Times n'a pas envoyé son rubricard de boxe. On envoie un stagiaire. On lui dit, alors je vous en parle parce que je l'ai rencontré, Robert Lipsight, le New York Times, pour ce combat-là qui est aujourd'hui mythique, envoie un stagiaire en lui disant, tu repères le chemin pour aller à l'hôpital, parce qu'au bout de round, ce Cassius-là, il va finir à l'hôpital. Robert Lipsight n'a pas du tout fini à l'hôpital. Il a passé beaucoup de temps dans le camp d'entraînement de Cassius, parce qu'il y avait déjà, à ce moment-là, ça pointait en fait ces années 60. Les jeunes allaient plutôt du côté de Cassius. Tous les reporters confirmés étaient du côté de Sonny Liston, qui était le champion, qui allait redevenir champion. Et lui, jeune stagiaire, il aimait bien ce jeune challenger. Donc il ne s'est pas retrouvé à l'hôpital, il s'est retrouvé enfermé dans les vestiaires avec quatre types qui étaient les Beatles, et que vous verrez dans le film. Et c'est très drôle parce que les Beatles, eux, ils voulaient une photo. Ils arrivaient, c'est la British Invasion, ils arrivent aux États-Unis, le plan com est fait, et ils veulent une photo avec Sonny Liston, le champion du monde. Et Sonny Liston, il a dit, mais moi, je veux pas d'une photo avec ces quatre tapettes, là. Hein. Donc, ils se sont rabattus sur ce Cassius Clay. Et moi, je l'ai connu, vieux monsieur, ce journaliste du New York Times, mais ce jeune stagiaire du New York Times, à côté de lui, un John Lennon vexé de devoir poser avec le futur perdant. Alors, on sait à quel point ces photos aujourd'hui de Cassius Clay et des Beatles sont devenues iconiques. Et d'ailleurs, j'ai jamais oublié ce que m'a dit ce journaliste du New York Times. Il m'a dit... C'est ça le début des années 60 aux États-Unis, c'est Cassius Clay et les Beatles. Et évidemment, il est là, William Klein, et il m'avait dit, je me souviens, j'étais là dans son gymnase, et tout à coup on a ouvert la porte et c'était les Beatles qui rentraient. Ali a donc fait un monologue, enfin Ali Cassius à cette époque-là, a fait un monologue sur sa célébrité, il a dit, il y a même les Beatles, même la reine d'Angleterre sait qui je suis. Donc ce qui frappe chez Cassius Clay à cette époque, dont personne ne vante la force, la puissance en boxe, c'est qu'il parle. Il a déjà enregistré un disque, il est passé au Ed Sullivan Show, il parle, alors qu'un boxeur noir ne parle pas. Un boxeur noir, c'est une espèce de bête de somme, c'est une brute, c'est un descendant d'esclaves, c'est toujours ce corps noir que la société américaine utilise et exploite. Et lui, il a la parole. Il a pas, on ne lui prête aucune puissance, mais la parole. Et comme ces années-là vont commencer à beaucoup s'agiter, il fait les plateaux télé, il enregistre un disque et il parle. Et c'est ça que vient chercher William Klein. Et vous allez le voir, il y a très peu d'images du match, d'abord parce que les droits des images sont très chers. Mais en revanche, il tourne, il est là, dans les vestiaires, sur la table de massage. Cassius Clay, n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas de parler. Alors, ces poèmes, quand on les réécoute à l'époque, hein, c'est enregistré en 63, donc un an avant ce combat, c'est pas archi-politique comme ça. J'en ai pris un extrait. En gros, il clame comme ça très fort. « Si Cassius dit qu'une vache peut pondre un œuf, ne demande pas pourquoi, graisse la poêle. » C'est ça, les poèmes d'Ali à l'époque, hein, pas plus que ça. Sauf qu'au fond, c'est politique parce qu'il parle. et qu'on leur, on leur interdit de parler. Et en fait, parce qu'il est très arrogant, il est très fier, il est sale gosse, hein, il insulte les gens, il est de mauvaise foi parfois, mais c'est ce qui le rend, moi, je trouve, très attachant. On est dans un contexte où la guerre, les États-Unis s'embourbent au Vietnam, Kennedy vient d'être assassiné, Luther King marche à travers le pays. Et je crois que toute la force de Cassius, elle est là. Vous le verrez, pour moi, c'est qu'à la fois, il parle fort, il parle au nom d'une communauté. Il a vécu, bien que, malgré sa médaille d'or, quand il est rentré dans sa ville, il ne pouvait toujours pas aller manger dans les mêmes restaurants que les Blancs, bien que médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et en même temps, on voit bien que lui, à cette époque-là, il est très ambivalent. Il veut juste être riche et célèbre. Donc, il valide complètement ce système de l'argent et de la célébrité américain. Et je crois que toute sa vie, il va être emporté par son époque, mais toute sa vie, il va être entre ces deux, entre la révolution qu'il va porter finalement, et cette envie d'être juste riche et célèbre. Et il y a quelqu'un aussi qui n'est pas dans ce film, mais qui est juste à côté, et c'est une autre anecdote que je voulais vous raconter, il y a Malcolm X. À cette époque-là, il veut être à la fois riche et célèbre, mais son mentor, son ami, c'est Malcolm X. Et Malcolm X, il est là quand Mohamed Ali s'entraîne, Cassius Clay s'entraîne, et il le conseille, et il prie Allah pour sa victoire, et il lui dit ce sera le combat de l'islam contre le christianisme des propriétaires d'esclaves. Mais justement, ce match, les tickets ne se vendent pas bien, parce que justement, la personnalité de Malcolm est dérangeante. Donc les sponsors de Cassius font du chantage, et donc Malcolm est obligé de rentrer. Il dit « Ok, je m'en vais, mais je reviendrai le jour du match ». Et William Klein, lui aussi, voyage. Il va de Miami à New York. Et il m'avait raconté, et j'adore cette scène, même si elle est silencieuse, c'est que quand il reprend l'avion pour aller à Miami, là où on va arriver dans le film, il rentre dans l'avion, il voit Malcolm X, et il voit un siège vide à côté, parce que personne ne veut s'asseoir à côté de lui, et donc il va s'asseoir à côté de lui. Et moi, quand j'interviewais William Klein, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit ?» Et il était, je crois que là, la mémoire l'avait un peu lâché, mais j'aurais adoré entendre ce que s'était dit ce grand photographe blanc, ce grand leader noir qui était Malcolm X. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce film et hors champ. Et voilà, il y a deux façons sur le ring et hors du ring, et à toutes les étapes du film, hein, jusqu'à la fin, entre Foreman et Ali. Ali, il devient Ali quelques semaines avant le combat, après le combat qu'il gagne, donc, quand Nation of Islam, il affirme qu'il est musulman, et Nation of Islam le rebaptise. Et à chaque fois, il y a deux types d'hommes noirs. Il y a Ali, qui est aussi, je crois, on peut faire une lecture presque psychologique, qui est un enfant qui a été choyé par sa maman, vous verrez sa maman, et je pense que cette aisance qu'il a dans la vie, c'est tout l'amour d'une mère. Quand en face, Sonny Liston est un enfant de milieu très pauvre, qui a été abandonné par sa mère, qui a été battu par son père, et on voit aussi, vraiment, on voit à travers, comme ça à chaque fois, les deux adversaires, deux réalités américaines, deux façons d'être noire aux États-Unis, et voilà, le mythe d'Ali est parfois encombrant, comme tous les mythes, on oublie tout ce que ça véhicule, tout ce que ça nous raconte. Et il y a aussi, dans ce film, je trouve, et avec le cadrage, les magnifiques cadrages de William Klein, on voit beaucoup d'enfants qui dansent, que ce soit à Kinshasa en 75, que ce soit à Miami en 64. Et moi, quand je me suis retrouvée en reportage sur les traces d'Ali, je suis allée dans son quartier d'enfance. Et juste en face, on me dit, le type qui habite en face était déjà son voisin. C'est un très vieux monsieur. Et il nous a ouvert, on l'a interrogé. Et sur sa cheminée, il y avait deux portraits. Il y avait celui d'Ali et il y avait celui d'Obama. Et je lui ai dit, finalement, qui a compté le plus? Qui a fait avancer le plus les choses pour vous? Il n'osait pas répondre. Parce que c'était un homme modeste, parce qu'il se serait senti irrespectueux pour l'un ou pour l'autre. Et moi, je crois, après ces 6 mois ayant travaillé sur Ali, et quand je vois ses enfants danser, je pense qu'Ali a été plus important. Je pense qu'il a donné, il a donné quelque chose que ne donnent pas les tribuns ou les penseurs politiques, une espèce de fierté, de gaieté. des vibrations qui sont uniques. Voilà.
Je me joins aux applaudissements et voilà. Et c'est un petit peu une transition par rapport à la séance suivante. On a parlé de vibration, de danse. Eh bien, dans le festival panafricain qu'on va pouvoir découvrir le 12 mars, il est vraiment question de ça et d'une danse qui libère, quoi. Voilà. Et la rue africaine qui clôt, voilà, donc avec la deuxième partie du film qu'on va voir à Kinshasa, ben voilà, c'est un tremplin d'une certaine manière à la rue algérienne qui est un condensé d'Afrique proposé en 1969. Merci infiniment, Judith Pérignon, et découvrons le film sans plus attendre. Merci beaucoup.